Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les ses meilleurs joueurs, enfin en tout cas les trois dans le groupe, les trois joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamain.
Et vous écoutez l'after, on entend jusqu'à minuit, il est 23h. On est sur RMC à la radio et sur la télé, sur RMC Sport News avec Jonathan Macardy, Kevin Diaz, le PSG face à Amiens à 4 jours de Dortmund, Marseille sans paillettes au programme, les drôles dames bien sûr, mais d'abord revenons au FC Nantes, toujours avec Martin. Je te laisse reposer ta question, Kevin, à Martin.
Oui, je te demandais, Martin, si tu avais écouté l'after avant, on parlait un peu des problèmes qu'ont les entraîneurs à Bordeaux et à Nice. Est-ce que tu penses pas que Christian Gourcuff a quand même beaucoup de mal avec la qualité qu'il lui est proposée dans son effectif pour mettre en place ses idées?
Bah, très clairement, je pense qu'il y a un problème. Bon, Christian Gourcuff, c'est un entraîneur qui a une certaine expérience, qui est pas habitué à changer de système, très clairement. Maintenant, je pense que là, on arrive à un moment charnière de la saison et on peut décider enfin si Nantes peut revenir, voilà, dans la bataille pour les places européennes ou alors reste dans le ventre mou. Et Gourcuff va devoir, je pense, un petit peu se réinventer, mais j'y crois pas trop. Connaissant l'entraîneur, connaissant le parcours,
Gourcuff, c'est le 4-4-2. Hein. Ah oui, c'est 4-4-2 érigé en grand principe.
Voilà. Hein. Voilà. Là, il y a une vraie déception, c'est-à-dire que on arrive sur un match contre Metz. Donc une équipe forcément plus faible que ce qu'on a pu rencontrer avant. On arrive, il y a beaucoup de retours dans l'équipe. Donc normalement, on retrouve un petit peu cette ossature qu'on a depuis le début de la saison. Et ne pas arriver à faire mieux que ça, même vu du stade. Après, voilà, j'ai pas encore tout regardé, tout ce qui s'est passé. Mais il y a quand même, il y a quand même beaucoup d'occasions qui sont manquées. Il y a beaucoup d'imprécisions. Et on retrouve plus cette alchimie qu'il y avait, cette petite folie offensive, même de joueurs comme Simon. Comme Blas, qu'on sent pas à l'aise, qui dans certains matchs, certaines positions, on sait qu'il est très fort, et il a largement le niveau pour être dans un très bon club de Ligue 1. Maintenant, là, sur un match comme ça, je trouve vraiment que c'est du gâchis. Et je suis un peu en colère aussi, puisque c'est des matchs qu'on doit pas laisser des points en route, surtout contre un adversaire comme Metz.
Quel est l'objectif de Nantes pour toi au début de la saison, vraiment?
Eh bien, au début de la saison, ça s'est compliqué parce qu'il y a eu la transition avec Vahid, il y a l'arrivée de Gourcuff,
On va dire à la trêve.
Après, c'est vrai que tout ce qu'a pu montrer Gourcuff sur le début de la saison, sur l'animation, sur la motivation des joueurs, fait un petit peu comme toutes les saisons, j'ai envie de dire, malheureusement, du côté de Nantes, un certain optimisme.
C'est pas Hugo Délire ici, c'est pas le jeu de l'époque. Vas-y, reprends, Martin.
Martin, ton clavier.
Attention à ton clavier, Martin.
Ouais, pardon. On se retrouve toujours dans une situation où en janvier, voilà, on est sur un point où on va finir une saison tranquillement en ayant des déceptions et on va être dans le même schéma cet été, des arrivées, des départs.
En gros, Nantes veut se maintenir tranquillement en Ligue 1, mais
oui,
pas plus, quoi.
C'est ça, ouais.
C'est ça. Et c'est un peu dommage pour un club comme Nantes, même au-delà du fait d'être supporter nantais, c'est un peu dommage pour un club comme Nantes d'être limité à ça.
C'est vrai.
Merci, ouais. Martin.
Eh bien, grand plaisir.
Merci, Martin. Quand tu veux dans l'after, bien sûr. Voilà pour le FC Nantes, voilà pour les matchs de la soirée. Passons maintenant aux matchs de la fin d'après-midi. Amiens 19e, hein, recevait le PSG, champion de France, hein, on peut le dire. Hein, PSG déjà champion, il n'y a aucun problème. PSG qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Ce sera mardi, le match aller face au Borussia Dortmund. Hein, je le dis parce que si on ne le savait pas, si on ne l'avait pas assez dit sur RMC.
Mission Dortmund.
Paris a été mené 3-0 face à Amiens. Paris a mené 4-3 face à Amiens. Paris a été accroché finalement 4-2 par Amiens. Beaucoup d'appels au 32-16, messieurs. Alors, on va prendre un peu de temps pour parler de ce match. Évidemment, le mettre en perspective par rapport au rendez-vous de mardi soir en Ligue des Champions. Déjà, votre lecture, je vais quand même rappeler la composition parce que, au regard de la composition, on va pouvoir analyser également ce qu'a voulu faire Tourelle et ce qu'il va faire peut-être mardi soir face au Borussia. Navas dans le but, Bakker, Silva, Kwasi, Herrera en défense, Di Maria, Paredes, Gay, Draxler au milieu de terrain, Icardi, Cavani devant. Donc moi, si je compte, me dites vous êtes d'accord avec moi, messieurs, hein, je compte le nombre de joueurs qui ne sera pas titulaire mardi soir face au Borussia. Bakker, 1, Kwasi, priori 2, Herrera 3, Paredes 4, Draxler 5, Cavani 6. A priori 6. Donc, quelle valeur...
Thiago Silva, 7.
Ah, alors justement, on va en parler. Quelle valeur a ce match, si on le met en perspective par rapport au rendez-vous en Ligue des Champions, Kevin? Et après, j'accueille Abdelkader au 32-16.
Bah, moi, je pense que ce match, footballistiquement, il n'a pas beaucoup de valeur. Parce qu'on l'a dit, il y a trop peu de joueurs du Paris Saint-Germain qui vont être alignés titulaires à Dortmund. Par contre, psychologiquement... il peut avoir un peu de valeur parce que il y a des joueurs qui sont revenus dans ce match pour reprendre du rythme. Hein. On sait que il y a ce fameux théorème que moi j'ai jamais vu en tant que footballeur de haut niveau, c'est-à-dire qu'on me dise dans un match officiel. Alors aujourd'hui tu as joué 45 minutes, ça j'ai jamais vu. Et là il y en avait plusieurs en plus, donc il y avait Thiago Silva, il y avait Marquinhos, il y avait Verratti, il y avait Gueye. Je pense que Gueye il est sorti aussi, c'était prévu. Hein. C'est ce que Loïc Tanzi nous avait dit. Ouais. Donc bon, j'ai trouvé ça cette gestion un peu bizarre. Mais bon, ok, passons. Je vais juste la mettre en parallèle avec Liverpool, hein, qui joue toujours avec son équipe type et qui a gagné juste 75 matchs sur les 60.
Et qui joue mardi soir en Ligue des Champions et qui a aligné sa meilleure équipe ce soir.
Donc bon, moi ça aurait pas été mon choix. Maintenant c'est le choix de Tourelle et c'est lui le patron. Ok. Par contre, psychologiquement, cette équipe quand même qui prend 3-0 à Amiens, derrière qui revient, qui mène 4-3, qui est même pas capable de garder le score. Honnêtement, même si ce sont que les remplaçants, ça reste quand même une équipe avec le maillot du PSG. Franchement, ouais, je trouve que ça fait pas très joli.
Non, ça c'est clair. Il y a pas de doute à avoir là-dessus.
Jonathan.
Alors le match était catastrophique. Il y a des joueurs qui ont fait des prestations inquiétantes. Je pense surtout à Thiago Silva qui était d'une fébrilité assez alarmante sur ce match-là.
Après il revient de blessure,
mais... après il revient de blessure, etc. Fallait qu'il se remette dans le bain, mais bon, un joueur d'un tel niveau, tu t'attends quand même à mieux. Il y a des joueurs qui sont passés totalement au travers. Herrera au poste de latéral droit, bon, tu t'attends à quoi? Voilà, pas grand-chose. Idrissa Gueye, horrible. Perte de balle, il est responsable sur des buts de d'Amiens. Mais voilà, c'est un match à oublier. Après, pour moi, est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que ça a une incidence? Est-ce que ça doit se tirer une sonnette d'alerte pour le match face à Dortmund? Je pense pas. Je pense que les joueurs, ils ont déjà, voilà, à l'image un petit peu du bourrage de crâne qu'on fait dans les médias, je pense que les joueurs aussi, ils pensent qu'à ça. Je pense qu'ils sont totalement concentrés sur ce match-là. Est-ce que c'est la bonne attitude à avoir? Je ne pense pas. Je pense que t'as parlé de Liverpool, très bien, tu vois, ils mettent leur équipe, ils sont concentrés sur leur match de championnat, ils prennent les matchs les uns après les autres, c'est un petit peu cliché de dire ça, mais je pense que c'est la bonne attitude à faire, à adopter. Donc, et là, le PSG, la Ligue des Champions, on sait très bien, quand tu arrives en 8e de finale de Ligue des Champions, t'as le poids de tout ce qui s'est passé les années précédentes qui revient te hanter, c'est qui revient te foutre un petit peu la trouille. Et là, les joueurs, ils ont qu'une envie, c'est d'en découdre avec cette phase à élimination directe en Ligue des Champions. Donc, est-ce que ça m'inquiète? Non, pas vraiment. Pour moi, ça veut rien dire. Et je pense qu'on aura un tout autre Paris Saint-Germain face à Dortmund.
Abdelkader est avec nous au 32-16, supporter du PSG. Bonsoir Abdelkader, bienvenue dans l'After.
Bonsoir à tous, merci. Salut,
beaucoup. Abdelkader.
Bonsoir l'After.
Bon, toi, comment tu analyses ce match? Comment tu le vis à 4 jours d'un match de Ligue des Champions? Est-ce que, comme Jonathan, tu dis, on s'en fout, la Coupe d'Europe, ça n'aura rien à voir?
Bah écoutez, c'est exactement, moi je vous avais à peu près tout dit, mais pour moi il est anecdotique ce match, footballistiquement je parle. J'ai quand même gardé des satisfactions et des mécontentements, on va dire.
Satisfaction?
Pardon?
Vas-y, continue.
Non, c'est vrai, j'ai pas entendu une satisfaction.
Oui, il y a des satisfactions.
Oui, quelques satisfactions quand même. Parce que quand on est mené 3-0 à la mi-temps avec des joueurs du PSG qui ne jouent pas très souvent, on va dire. Quand je dis pas très souvent, c'est-à-dire c'est pas des titulaires indiscutables. Quand ils reviennent à 3-0 et qu'ils reviennent à 3-3 et qu'ils mènent jusqu'à mener 4-3, on peut dire que c'est quand même des joueurs impliqués malgré qu'ils ne jouent pas. Ensuite, la deuxième satisfaction, je dirais, c'est Verratti.
Ah oui.
Avec son entrée en jeu.
Très bien. Il a été énorme.
Il a été énorme. Après, bon, c'est un match de Ligue 1. Moi, ça m'étonne pas qu'il soit comme ça en Ligue 1. Bon, il a toujours été énorme en Ligue 1, mais j'aimerais aussi qu'il continue comme ça pour le match aller-retour contre Dortmund.
On espère.
Après, la troisième satisfaction, c'est pour moi. Bon, il a pas. C'est vrai qu'il a été. Défensivement, en première mi-temps, il n'a pas été bon, c'est Kouassi. Défensivement, il a eu du mal en première mi-temps.
Ah ouais, il faut le faire signer, lui, Abdelkader.
Ah ouais, non, mais ils veulent bien, hein, le PSG, faire signer. Mais sauf que lui, pour l'instant, il a repoussé deux offres du PSG. Hein. Il a 17 ans, il a un stagiaire.
Bon.
Exactement.
Moi, je l'ai trouvé bon.
Faut vraiment que le PSG...
il a été énorme. Vas-y, Abdelkader, fini.
Justement, en deuxième mi-temps, il a été énorme. Et que ça soit défensivement ou même franchement, il a un jeu de tête, c'est énorme.
Ça oui, ça oui.
Il a un jeu de tête sur ses deux buts et même défensivement, il fait des bonnes interventions.
Puis au pied, au pied, il est pas maladroit.
Hein. Oui, c'est ce que je viens de dire aussi.
Il a quel âge? Il a
17 ans.
17 ans. Oh, ok.
Il a 17 ans.
J'allais être un peu sévère, mais non.
Il est jeune, il a 21 ans, lui, il a 4 ans de moins qu'Mbappé.
J'allais être un peu sévère, mais non, ok, effectivement.
Moi, je trouve.
Abdelkader, j'ai une question pour toi.
Juste, je termine. Je trouve qu'à 17 ans sur Kouassi, il a beaucoup de calme, balle au pied.
Techniquement, il est bon. Techniquement, il est très bon.
Abdelkader, moi, je voulais te demander, quand tu vois quand même le match, le résultat de Dortmund, qui quand même joue contre Francfort. Francfort, c'est pas Amiens, je te le dis.
Oh, mais c'était faible.
Oui, bien sûr.
Peu importe si c'est faible. C'est une équipe qui est largement en dessous.
C'est meilleur qu'Amiens.
Tu vois ce que je veux dire? C'est quand même une belle équipe de Bundesliga. Parce que peut-être que si Francfort c'est faible, c'est parce que Dortmund les rend faibles. Encore une fois, je reprends l'exemple. T'as Liverpool, qui met son équipe type, qui a beaucoup de fondamentaux, qui a des automatismes. C'est une machine que tu as l'impression que tu peux pas les arrêter.
C'est rodé.
Et nous, en France, on a notre leader, notre équipe phare que tout le monde veut voir en quart de finale, mais on est à 5 jours du match et on a encore 1, 2, 3, 4 points d'interrogation sur les titulaires.
Non, c'est intéressant.
Les blessures et les méformes, t'as des interrogations. Au moins 3.
Je te la donne, l'équipe. Hein.
Les gars, on va jouer à ça. Appelez-nous, supporters parisiens 32-16. Ça reste avec nous, Abdelkader. Je voulais avant ça qu'on écoute Thomas Tourelle, justement, sa réaction après le match, qui commence à être un petit peu, rageux vis-à-vis des médias.
Agacé.
Ouais, il commence à nous mettre des taquets, ce qu'il faisait pas jusqu'à présent. Écoutez.
C'est bien pour vous. Vous pouvez me montrer maintenant des doutes. C'est super pour vous, mais pas pour moi. Je sais que pour vous et pour tout le monde, c'est totalement normal qu'on gagne, on gagne, sans but encaissé. Et si on fait ça, c'est toujours facile, on a toujours les meilleures équipes, on a des meilleurs joueurs. Une chose comme ça arrive une fois pendant 23 matchs, ok, on peut dire, nous avons confiance. C'est mon avis.
C'est rare de le voir aussi engagé en conférence de presse, presque en colère. Si vous avez l'image,
c'est parce qu'ils sentent une chose, ils sentent la pression.
Oui, alors les gars, justement, Abdelkader t'es avec nous, Ahmed va arriver également, Kevin et Jonathan. Ouvrons le thème composition PSG mardi soir. Parce que moi je rejoins Kevin. Il y a des questions qui se posent. Quand tu vois la forme de Thiago Silva qui revient de blessure, 17 jours sans jouer, il a 35 ans. Est-ce qu'il est prêt à jouer et à débuter avec l'intensité en Ligue des Champions mardi soir face au Borussia? Gay, pareil. On dit quoi également? Non, mais je sais pas.
Il est dans ton équipe ou pas, Thiago Silva, Jonathan?
Oui, oui.
Ah oui? Contre Dortmund, contre Sancho et Haaland.
Ouais.
Ah, c'est compliqué.
Mais alors, la défense, moi, je pense qu'on n'a aucune conviction, certitude sur la défense du PSG. Abdelkader, vas-y, commence. Après, Jonathan parlera et donnera ça à son équipe du PSG.
Justement, Thiago Silva, il était dans mes mécontentements. C'est-à-dire que, ok, il revient de blessure, mais son match, il est catastrophique pour un joueur de cette expérience et de cet âge-là. Il a pas le droit de faire un match comme ça. Et je suis très très inquiet pour mardi par rapport à Thiago Silva, surtout que Kimpembe, il est forfait.
Et voilà.
Presque forfait. Donc, il y a quelques doutes sur lui, mais je pense que la charnière, ça va être Marquinhos, Thiago Silva, qui va obliger Tourelle à mettre Gueye en 6. Qui est aussi bon
avec Verratti.
Mais c'est léger. Ouais, mais
je pense qu'il va jouer en 4-3-3.
Non, je pense pas qu'il va le faire. Qu'il va faire ça parce qu'il va pas changer sa compo au dernier moment. Ça fait 2-3 mois qu'il insiste sur le 4-4-2 ou le 4-2-4.
Ouais.
Qu'il insiste et qui rôde cette compo pour Dortmund. Je pense pas qu'il va changer au dernier moment. Ça serait tirer une balle dans le pied.
Vas-y, Jonathan.
Envoyez-nous votre compo du PSG sur hashtag RMC Live. Il y a Petit Prince du Parc qui l'a envoyé. Je la donne dans un instant. Vas-y.
Après, c'est mon avis, mais.
Ouais, bien sûr. Mais t'es là pour ça, de le donner, Abdelkader.
Navas, qui a fait un match catastrophique aussi. Silva, Marquinhos. Je pense que Thiago Silva, il a des automatismes avec Marquinhos et qu'il sera autrement meilleur que là, il a pu l'être avec le jeune. Meunier et Bernat sur les côtés. Effectivement, j'aime pas ça, mais il va mettre Gay en numéro 6. Et je pense que c'est pas son poste, mais Gay, Verratti au milieu de terrain. Et puis, devant, Di Maria, Mbappé, Icardi, et si Neymar jouera, sinon je pense qu'il mettra, Sarabia ou.
J'ai peut-être une petite hypothèse sur le couloir droit. Peut-être qu'il ne mettra pas Meunier, mais Kerrer.
C'est le seul doute que j'ai.
Kerrer, il apporte une solidité défensive que n'a pas Meunier. Et avec Sancho, que ce soit, je sais pas qui joue à gauche à Dortmund, que ce soit Sancho ou Thorgan Hazard,
Sancho à gauche. Meunier, il était pas blessé là.
Il a laissé
à Paris pour le reposer. Bon, voilà.
Okay. Il n'était pas du déplacement.
Tiens, Petit Prince du Parc nous dit sur HGM s'élève, lui, il voit Navas, Meunier, Silva, Marquis, Bernat, Paredes, Herrera et devant les quatre.
Paredes, Herrera.
Ouais. Bizarre. Di Maria, Mbappé, Icardi, Neymar. C'est son souhait, sûrement.
Non, moi, je peux vous la donner, l'équipe du Paris Saint-Germain, messieurs.
Vas-y.
Donc, c'est
Neymar. Vous savez que Tourelle ne l'a pas encore, lui, son équipe. Ouais. Hein.
Oui, mais.
Il a dit après le match, j'ai 12, 13, voire 14, 15 joueurs.
Possiblement. Je lui envoie l'équipe juste après. Mais Navas, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat.
Mais il est blessé, Kimpembe. Il est forfait.
Il est forfait.
Non, mais qu'est-ce que vous
racontez? Non, il n'est
pas eu de forfait.
Il
n'a
pas le mettre.
Justement, ils l'ont ménagé là. Ils espèrent qu'il sera apte mardi soir pour épauler Thiago Silva en défense centrale et laisser Marquinhos, ce que veut Tourelle, au milieu de terrain.
Mais je pense qu'après ce match, c'est Navas, Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Gay, Verratti, Di Maria à droite, Mbappé à gauche, Icardi en pointe et Neymar un peu en appui, qui lui demandera peut-être moins d'efforts que sur le côté où
alors, on a la même équipe, hein.
Ouais, donc t'es pas sur un 4-3-3 finalement. Ouais,
si, moi j'ai Neymar en fait en 10, tu vois.
Ouais, t'as un 4-4 de losange.
Ouais.
Oui, voilà.
T'as un losange. En 10. Mais non, ça, on a la même, ouais, c'est dans un 4-4 de losange, mais on a la même équipe, sauf que toi, t'as Kimpembe à la place de Thiago Silva. Je pense quand même que Kimpembe, c'est pas non plus l'assurance tout risque, hein.
Mais il va vite. Ouais, mais le problème, les gars, c'est qu'il va vite. Et l'attaque de Dortmund, ça va à 1000 à l'heure en contre-attaque.
Est-ce qu'il est apte à 100%, Kimpembe?
Mais non, le problème, c'est que Thiago Silva n'est pas 100%, Kimpembe n'est pas 100% également. Marquinhos n'est pas 100% parce qu'il est resté longtemps, blessé. Kerrer, ça va un peu mieux.
Et notre ami Diallo, on est où là?
Abdou Diallo est out.
Il y a des points d'interrogation.
Merci Abdelkader.
Salut Abdelkader.
Je voulais juste ajouter une chose. Ça va être un petit coup de gueule, mais parce que je suis supporter du PSG, mais je suis aussi un amoureux du football. J'aime bien regarder des matchs de foot, que ce soit l'OM, l'OL. Enfin, je regarde tous les matchs de Ligue 1.
Ouais.
Et je suis vraiment dégoûté du niveau qu'on a cette saison. Surtout aussi en Coupe de France, du niveau qu'on a eu cette semaine. Je comprends
pas,
en fait.
T'as pas tort, Abdelkader.
C'est des mecs qui s'entraînent tous les jours. Ils doivent travailler pour ça, pour progresser. Donc je me demande ce que font les coachs de Ligue 1. C'est surtout les clubs qui ont beaucoup de moyens, comme Lyon, comme Marseille aussi. Marseille, il faut pas me dire qu'ils ont pas de moyens. Ils peuvent largement jouer mieux que ça.
Tu parles des coachs, moi je te parle des joueurs.
Moi je vous parle d'autre chose. Abdelkader, Kevin, le problème, c'est les coachs et les joueurs. Il y a pas de souci, mais c'est surtout que les clubs sont très mal gérés en Ligue 1.
Oui, il y a aussi ça, mais en tout cas, on a bien vu que Marseille était capable de bien jouer. On a bien vu en première partie de saison.
Avec des idées,
bien sûr. Enfin, ça a duré 6 matchs, mec. Hein.
Merci.
C'est sûr. Ouais.
Merci beaucoup, Abdelkader. Excellente soirée à toi. Bon match mardi soir. Tiens, j'accueille également Ahmed au 32-16. Salut, Ahmed.
Bonsoir.
Salut, Ahmed. Supporter parisien.
Oui.
Bon, qu'est-ce que t'en penses, toi, du travail de Tourelle aujourd'hui, notamment, et de sa communication?
Moi, j'ai dit Stan Kroenke, c'est une pipe. Je l'ai dit depuis le début.
Mais t'as un accent marseillais, toi, Ahmed, non?
Comment?
Mais t'es supporter parisien.
Depuis Zingentang.
T'habites où?
J'habite dans le Gard.
Ok.
Ah, mais ouais, d'accord, ok.
Allez-y, nous.
À la limite de l'Ardèche. Vas-y. Non, moi, j'ai dit que c'est pas l'entraîneur, ça. Il est toujours en train de changer l'équipe, il fait jouer des joueurs à part leur poste, Herrera arrière droit, il met le jeune milieu de terrain, une défenseur central, il a Kerrer, il a fait 3 matchs en 6 mois, il est fatigué, il les met tous dans une couveuse. Mais c'est pas déconner, non, c'est l'entraîneur, ça. Moi, je vous le dis, moi, l'an dernier contre Manchester, c'est lui qui nous fait perdre.
Bah, ça,
il
ça je t'en
rejoins. Il a mis au placard Meunier, il met Choupo-Moting contre Manchester, il met Cavani sur le banc.
Cavani revient de blessure aussi, Ahmed. N'oublie pas.
Mais même en revenant de blessure, sur une jambe, il est meilleur que l'autre, non?
Mais tu sais, Ahmed, ce que tu dis, c'est intéressant parce que moi, j'ai toujours émis des doutes, pas sur forcément les qualités d'entraîneur de Thomas Tuchel, mais plus sur son aptitude à gérer un club aussi, pas compliqué, mais aussi particulier que le Paris Saint-Germain. Tu sais, t'as les égos à gérer, t'as beaucoup de management. On sait qu'à Dortmund, et d'ailleurs, il a totalement changé de personnalité. À Dortmund, c'était un vrai général de guerre. Oui. Il allait faire les placards des joueurs pour leur enlever le ketchup. Là, t'as l'impression qu'il fait de la caminothérapie. Mais j'ai l'impression qu'il a du mal à s'adapter. Tu vois, qu'il est un peu dans une crise de schizophrénie. Et moi, ce qui me dérange le plus, et là, je pense que vous allez être d'accord, c'est ce côté un petit peu laboratoire d'idées permanent qui est devenu le Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel. T'as jamais vraiment, t'as toujours en train de tester des choses pour tester les choses. Alors que voilà, t'as le matériel, tu devrais avoir ton équipe type et bam, tu parlais de Liverpool, Kevin, très bon exemple. Ça devrait être toujours la même équipe.
L'Oréal, c'est le cas aussi. Alors, beaucoup d'Dortmund, ils sont aussi en plein laboratoire.
Dortmund, derrière, ils ont des problèmes.
Eux, ils ont beaucoup de jeunes, mais Jonathan et Ahmed ont raison. Moi, par contre, aujourd'hui, Herrera arrière droit, là je peux pas. Là, faut m'expliquer. Faut m'expliquer. T'as pas un jeune du centre de formation, je sais pas, un mec qui est Herrera arrière droit. Non, franchement, là, j'ai pas compris ce choix.
Le pauvre,
c'est vraiment symptomatique du truc. Là, c'est plus du bricolage. Là, c'est
ça veut dire aussi que c'est Meunier qui sera sûrement titulaire mardi, puisque Meunier a été laissé au repos et Kurzawa a été laissé au repos à gauche également. Donc, il a ses deux latéraux, certainement.
C'est Bernat qui va jouer à gauche.
Bernat, et pareil, physiquement, c'est compliqué.
Point d'interrogation.
Point d'interrogation.
Ouais.
Le problème, c'est que tu as plein de points d'interrogation oui, au-dessus des têtes de toute la défense parisienne.
On va revenir à ce que Kevin, tu disais, quand tu as lancé le débat sur quelle composition d'équipe. En fait, il faut aussi le dire, parce que ça, on l'a dit plein de fois, mais j'ai l'impression que cette année, on n'a pas incité là-dessus. C'est que le staff médical du Paris Saint-Germain, il y a quand même un vrai problème aussi. Ça fait des années que ça dure, cette affaire. Ça fait des années que t'enchaînes les blessures, que des joueurs sont fragiles. Il y a un vrai problème là-dessus. Ça peut pas être juste l'hygiène de vie des joueurs, etc. Au bout d'un moment, il faut se poser les bonnes questions.
Tiens, j'aime bien ce message de Loïc sur hashtag RMC Live qui nous dit rassurez-moi, Dortmund PSG, il y aura un match retour au parc ou pas? Non, parce que tout le monde trempe pour mardi, mais dans trois semaines, tout le monde devrait être en rythme également. C'est vrai, il a raison de préciser, ça se joue pas mardi soir, que mardi soir.
Moi, est-ce que j'ai dit que je tremblais?
Non, mais toi, tu te trompes pas parce que t'es Marseillais.
Mais non, mais je suis assez confiant pour le PSG sur la double confrontation contre Dortmund. Je te l'ai dit hier. Je pense que stylistiquement parlant, c'est l'équipe parfaite.
Et franchement, je pense que nous médias, on a bien fait notre travail parce que ça fait longtemps que j'ai pas eu autant hâte de voir.
Mais oui, t'as raison.
De voir un match que.
Bah,
que
je t'avoue qu'avec quoi, je vous avoue, hein, Liverpool Atlético le même soir, c'est le choix, il est dur. Hein.
Oh non.
Ahmed, avant de quitter, t'es confiant ou pas toi?
De télé.
Pour mardi soir déjà, moi, pas pour la qualif.
C'est ça, ouais, mais.
Moi, je vous dis une chose. Il y a un truc qu'il faut prendre, c'est l'arrière droit, la marocaine.
Ashraf Hakimi.
Voilà, il faut l'empêcher de monter.
Hakimi très fort, ouais.
Voilà. Il faut qu'Mbappé, sur son côté gauche, il lui mette à la misère, comme ça, il ne montera pas.
C'est vrai.
Il faut bien fermer le côté, mais il faut que le mec, il court plus que ça. Ce Draxler, là, c'est une danseuse de tango.
Ouais, Draxler, c'est plus possible, hein.
Il aurait joué contre nous dans les quartiers là, mais il aurait sauté la corde pendant 90 minutes. Hein,
ouais, Draxler, j'avais un peu d'espoir quand il me semble que c'était Unai Emery qui avait repositionné plus bas.
Mais là, les quatre fantastiques, il faut arrêter avec ça. Il n'y en a que deux de fantastiques. C'est Neymar et Mbappé.
Di Maria, il est fantastique.
Mais arrêtez, c'était un poulet sans tête à Madrid, ils l'ont gardé un an. Il était à Manchester, il a
joué. La propagande, herménienne, faut fonctionner un peu.
C'est un peu sévère.
C'est le meilleur joueur de l'Argentine qui va quand même en finale de Coupe du Monde contre l'Allemagne.
Il se blesse, malheureusement.
C'est pour ça qu'ils ne le prennent plus, les équipes nationales.
Mais non, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir.
On n'a pas eu un débat.
S'il n'y a pas Messi, ils ne vont même pas la Coupe du Monde.
Les gars, tu dis des sottises là. Il y va plus parce qu'ils ont perdu trois finales, ils en peuvent plus, voilà, il y a une usure. Mais t'inquiète, Di Maria, il a toujours été performant.
Allez les gars, on fera un débat Di Maria. Pour moi, il n'y a pas de débat sur Di Maria, c'est un joueur exceptionnel, évidemment.
Ah oui, c'est un magicien.
Je
préfère Payet.
Non, j'avoue, je préfère Di Maria, mais je suis obligé de dire
Payet.
Il rate des passes Sarabia, il est beaucoup plus intelligent.
Merci Ahmed. Merci Ahmed. C'est un gage. C'est ton ami tranché.
Mardi, tu vas le chercher, il va être nul encore, je te l'annonce.
Ahmed.
Merci Ahmed, excellente soirée à toi.
Rappelle-nous, Ahmed,
rappelle-nous mardi soir, tiens.
Comme Manchester, le match retour l'année dernière, on l'a pas vu sur le terrain, je l'ai cherché, je l'ai pas vu.
Ok, allez, voilà, pour Di Maria, tu l'as raconté, c'est la fin de l'hiver, c'est dommage, mais bon, quand même.
Ahmed.
Il va finir l'hiver au chaud, Di Maria. Bonne soirée à toi, Ahmed. Rapidement, quand même, vous voulez qu'on parle de Damien. Sébastien nous a appelé, il a vécu un match exceptionnel, Sébastien, supporter amiénois. Bonsoir, Sébastien.
Oui, bonsoir.
Salut, Sébastien.
Tu l'as vu où? T'étais à la licorne ou devant la télé?
Non, j'étais au stade. On est supporters habituels, abonnés, et l'ambiance est extraordinaire. Mais d'ailleurs, ce matin, j'étais avec Willy pour les paris et j'avais annoncé le match nul. Et l'ensemble des consultants ont parié sur. Alors, je sais pas s'ils écoutent ce soir. On pariait sur la victoire de Paris. Donc, une petite pensée pour eux. Mais je vous entends beaucoup parler de Paris. Mais même 50% de Paris, c'est quoi, 350 millions ou 400 millions de valeur. Là où l'équipe d'Amiens, c'est 10, 15 millions, peut-être 30 pour l'ensemble des joueurs. Donc je pense qu'il ne faut pas oublier qu'Amiens fait un match excellent, qu'on a fait la même chose à Lyon, puisqu'on a fait match nul. Alors certes, notre classement est catastrophique, mais dans les grands matchs, ce que j'ai vu ce matin, c'est ce qui justifie mon pari. Dans les matchs, les moments difficiles, Amiens sait élever son niveau de jeu.
C'est pas ça, Sébastien.
Vas-y Sébastien, fini.
Et donc, je suis quand même assez confiant pour le maintien, pour Amiens, et je trouve que ce match-là, ça peut être un match référence qui déclenche des choses, notamment pour Guirassy, parce que Guirassy était catastrophique. Il a commencé à se réveiller à Monaco, là aujourd'hui,
c'est vrai.
Très bon. Et je pense qu'on peut avoir de l'espoir. Bon, puis Kakuta qui est resté jusqu'à la fin du match pour une fois. Alors, j'ai jamais compris pourquoi Esner le faisait sortir, parce que Kakuta, c'est en milieu de terrain avec Monconduit. Bon, Monconduit avait un match de suspension, qui ne pouvait pas jouer aujourd'hui. Mais Monconduit et Kakuta, c'est un milieu qui nous permet de garder le ballon et d'éviter de voir ce qui s'est passé. Okay,
Sébastien, je pense que je suis d'accord avec 90% de ce que tu as dit, mais je pense qu'en fait, là où je suis pas du tout confiant pour le maintien par rapport à Amiens, c'est que je pense qu'Amiens, de par son style de jeu, de par cette capacité justement, je pense que c'est une équipe qui sera forcément meilleure face à des équipes qui jouent. Voilà, face à des équipes qui jouent et qui leur laissent un petit peu d'espace. Là, je les trouve très forts, notamment dans leur pressing tout terrain en début du match. Ils étaient impressionnants. Et je pense que c'est une équipe qui a forcément un peu plus de mal quand le jeu est un petit peu plus fermé. Et donc, pour moi, je suis d'accord. Le pari contre de miser un match nul contre des grosses équipes,
Sébastien, juste une chose. Vous pouvez pas vous maintenir en prenant 3 buts sur coup de pied arrêté, pas contre le PSG. Prendre des buts dans le jeu, sur des décalages, mais sur coup de pied arrêté, c'est inadmissible. Ouais, c'est un pour un et il faut sauter plus haut, il faut y aller, quoi.
Tu vois. Sébastien, tu peux conclure. Vas-y.
Ouais, on n'a pas été épargné par les blessures, c'est ça aussi le problème.
Ah bah ça aussi, ouais.
On a Prince Guano qui est plus là depuis le début. On a notre Godos qui est pas là non plus. Donc, mais moi Renaté. Je pense que c'est avant tout psychologique. Parce que on a quand même aujourd'hui un avançant qui ne faisait rien et qui se débloque. Et je pense que c'est vraiment ça qui nous manquait. Si on regarde le match de Toulouse, par exemple, il était propre, mais on n'a pas marqué. Je me souviens aussi du match aller contre Lyon, 2-2. Même chose, on aurait pu gagner si on avait été un peu plus réaliste devant les buts.
C'est vrai.
Il nous manque ça. Je pense qu'on va se maintenir.
Eh ben, on va essayer il faut espérer que Guirassy recommence à marquer des buts. Et puis, voilà.
Merci Sébastien.
Salut Sébastien.
Excellente soirée à toi, Amiens, 19e de Ligue 1, quand même à 5 points, l'écart se fait, hein. De la 18e place, la place du barragiste. Ouais. Tiens, Neymar, comment il se sent, avant le match avec des champions? Écoutez, le Brésilien.
Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe.
On s'est l'air d'aller mieux quand même. Hein.
Ouais, ça va.
Et la phrase est mythique. Tout à l'heure, Roland Courbis, pendant le RMC Foot Show, il nous dit c'est qui parle là? C'est Gollum, non? C'est Seigneur des Anneaux. Il pensait vraiment que c'était Gollum du Seigneur des Anneaux qui parlait. Mais non, c'est Neymar, coach. Voilà. Allez, dans un instant, les drôles de dames, un mot sur Marseille, bien sûr, et l'absence de Dimitri Payet, et puis Fred Hermet, Julien Laurent, Simone Rovera. L'after est là jusqu'à minuit avec Kevin Diaz et Jonathan Bacardi. Vous êtes sur RMC, à tout de suite.
RMC. L'after foot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Bacardi, avec Kevin Diaz, bien sûr, on est ensemble jusqu'à minuit à la radio sur RMC, et précision, à la télé sur RMC Sport News aussi, hein.
Oui.
On voit vos trombines, messieurs, à la télé, hein.
C'est pour ça qu'on a.
Et sur les réseaux sociaux également, on vous voit. Hein. Ils vous reconnaissent dans la rue, les gens, ou pas?
Oui.
Depuis que vous avez intégré l'after de l'élégance,
c'était avant. Non, mais alors, surtout.
Ils t'insultent
c'est
comme cool. Sur les réseaux,
bah
ou pas?
Non, justement, les gens sont très très cool quand tu les croises en vrai.
C'est marrant, vraiment. Il y a toujours un décalage.
C'est incroyable. Ouais, c'est j'ai jamais, franchement, ça va surprendre sûrement beaucoup de gens qui me détestent, mais j'ai toujours rencontré avec des mecs hyper sympas. Ils disent, même si je suis pour Paris et tout, c'est incroyable, super.
Oui, il y a toujours
super.
Un décalage. Bah, sur Twitter, c'est vrai que c'est parfois plus facile.
Mais peut-être qu'aussi, parfois, il faut dire la vérité, nous tous, on a peut-être parfois l'air de tête à claque quand on est à la radio en plateau.
C'est
ça aussi. Peut-être le reconnaître aussi.
Avant d'accueillir les drôles de dames, messieurs, qui elles sont les stars dans leur pays. Fred Hermel n'a pas besoin de l'after pour exister, parce que Fred Hermel, c'est elle française là-bas, tout le monde le reconnaît.
Sauf quand il essaye d'aller en boîte à Paris.
Tu vas arriver à un mauvais souvenir là. Dans un instant, Fred Hermel pourra répondre à ça. Marseille rapidement quand même, les messieurs, c'est une des infos du jour. Le gros match, l'affiche de la journée, c'est demain soir 21h. Voilà. Cette Pierre Mauroy, Lille face à Marseille, un match
Jonathan
important
est déprimé.
Pour Lille surtout, qui va essayer de recoller vraiment. Payet forfait. Voilà, Payet ne sera pas là. Les infos qu'on a qui viennent de Florent Germain, c'est que nouveaux examens aujourd'hui qui n'ont pas révélé de lésion au niveau de la cuisse, c'est juste une contracture. Mais l'OM n'a pas voulu prendre de risque avec son meneur de jeu, peur de le perdre sur une plus longue durée en cas d'aggravation de la blessure. Mais selon nos informations, c'est intéressant, c'est aussi la décision de Payet, qui n'était pas chaud pour jouer ce match à cause de sa petite blessure, contracture, avec laquelle on peut jouer. Mais bon, attention. Surtout, un peu plus d'un mois, la liste des champs. On est d'accord. Ce sera en mars, la liste des champs. Il est marqué encore par sa blessure en finale de la Ligue Europa en 2018 qu'il avait privé du mondial, évidemment.
Ouais. Mais de toute façon, ce que je te disais, on en discutait avant l'émission, mais la contracture, le problème, c'est que alors, vous strappez bien, vous compressez, vous pouvez jouer un match. Mais 90 minutes, c'est quasiment impossible, parce qu'au moment où la fatigue musculaire commence à arriver, c'est-à-dire à la 70, 75e, franchement, ça commence à devenir très dangereux. Et surtout, si vous blessez, une contracture c'est 5 à 10 jours. 10 jours pour être pour être au top. Par contre, si vous vous blessez, là c'est 3 à 6 semaines. Ouais, et là après
il y a pas de liste en mars, et s'il est pas dans la liste en mars, il sera pas forcément à l'Euro en 2020,
Bon, il faut se poser
vous le comprenez en tout cas.
Oui, je comprends, il faut se poser la vraie question sur le match de demain, comment l'Olympique de Marseille va jouer. Donc 4-3-3, il y a pas de souci, on se rappelle du match contre Angers où d'ailleurs, c'était bizarre, on savait que Payet ne était suspendu, moi j'avais dit Marseille n'a pas gagné.
0-0.
C'était Radonjić qui avait joué côté gauche. Maxime Lopez côté droit.
Qui joue en souffrant, a dit hier Villas-Boas.
Là, Radonjić, j'ai du mal à le voir débuter quand on connaît son état de santé. Et là, tu te dis, mais comment ça va jouer? Donc, à mon avis, ça va être Sakai latéral droit et Bounassar qui va prendre le couloir droit. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute à avoir là-dessus. Surtout quand on voit les perfs, je l'adore, mais les perfs de Max Lopez quand il est aligné sur le côté dans cette ligne de 3, ça ne va pas du tout. Donc, ça va être Sar, Pipa Benedetto qui revient dans l'axe, et à gauche, qui va jouer? J'en ai aucune idée. Mais quand je te dis aucune idée.
Va-t-il rappeler Liadji?
Non. Alors, Liadji, d'ailleurs, petite parenthèse, la réserve de l'OM. Il joue avec la réserve de l'OM qui perdait 4-0 et qui ont gagné 5-4. Ouais, okay. En hommage à Roland Courbis. Donc, je ne sais pas qui va jouer. Peut-être Raoui. Peut-être qu'il va, parce qu'il a déjà joué à ce poste-là, peut-être qu'il va faire remonter sans son encran. Mais j'ai du mal à le croire. Là, Villas-Boas, bonne chance parce que t'es dans une merde, mon pote, mais pas possible pour préparer ce match-là contre Lille.
Voilà pour le match entre Lille et Marseille demain soir. J'accueille Fred Hermel. Bonsoir, Fredo.
Alors, commençons avec cette histoire.
Oh, ça va.
Laisse-le parler.
Non, mais c'est vrai. Olatikos, c'est vrai. Jonathan a raison. J'ai été refoulé au premier abord à l'aventure. Depuis, ils ont fermé boutique. Il n'y a pas de hasard.
Quoi,
quand on ne laisse pas rentrer Fred Hermel quelque part, en général, ça ne porte pas bonheur.
C'est ton réseau, quoi. T'as appelé qui, Macron?
Je ne dis rien. Simplement, c'est le karma.
Bravo, Fred.
C'est comme bien ceux répondu. Qui me détestent, ils finissent pas bien en général. C'est comme ça, je sais pas pourquoi. Il vaut mieux m'aimer.
Mais tout le monde t'aime ici, tu sais bien.
Hein. Oh, bah, c'est vrai, je sais.
Parfois, ça se passe.
Non, mais il y a des fois des gens qui n'aiment pas.
Enfin, voilà, ça veut pas dire qu'on l'aime pas.
Ah ben non, ah oui. Ben non, c'est
ah ben non, mais nous on sait bien que Jonathan, on n'est pas toujours d'accord sur certains trucs. Mais sinon, si on était tous d'accord, ce serait d'un
chiant. Ouais. Ce serait pas l'after aussi, mon cher.
Bah ouais, ce serait, tu vois. Parce que si c'était que Nico Jamin, moi je suis toujours d'accord avec Nico, par exemple.
Ah oui.
Quasiment tout le temps. Donc c'est bien d'avoir un Jonathan et un Kevin pour discréper, pas comme on dit en espagnol, pour avoir donné des avis à
Val. Pas la discuter.
Et discuter, exactement.
Pas la discuter, pour discuter. Je fais la traduction parce que tout le monde n'est pas hispanophone, hein. Ici, évidemment. Fred. Le Barça. Barça a gagné 2-1 face à Rétafé. C'est toujours un peu chiant, Rétafé, hein. Jamais simple à négocier.
Ah, bon, c'est dur. C'est l'équipe, pour moi, c'est l'équipe, après le Real, c'est l'équipe la plus sûre de ce championnat. Ils n'ont pas volé leur troisième place. Et sincèrement, le Barça a fini, après avoir été malmené quand même pendant de longues minutes, hein, pendant cette rencontre, hein. C'est-à-dire que le Barça devant, bien entendu, ça marche devant, mais ça, on le sait. Mais c'est que derrière, on a eu un Barça qui est mené 2-0, qui après a pris un but de Angel. Alors, vous savez que le Barça, avec la blessure de Dembélé, de 6 mois, au bout de 5 mois, on a le droit de demander un joker médical.
Ouais.
Donc, le Barça pourrait recruter Angel, qui est le attaquant remplaçant de cette équipe de Rétafé et qui est rentré, qui a mis un but magnifique, une super frappe, et qui finalement on a eu un Barça qui a même dû écouter un peu de siffler dans le public, parce que je pense que les gens, on a un peu marre de pas voir le Barça terminer bien ses matchs, aller à un quart d'heure de la fin en disant voilà, ça fait 3-0 et c'est plié, quoi. Ça fait quand même longtemps que le Barça n'a plus cette domination absolue où les matchs sont vite réglés. Ça reste une équipe fragile derrière. Alors ça va passer contre Naples, mais on a l'impression qu'il va falloir resserrer un peu plus les boulons.
Un petit mot sur Umtiti, Fred.
Il a pas été.
Ah ouais, d'accord.
Il était titulaire ce soir parce que l'anglais a été expulsé la semaine dernière, mais c'est plus du tout le Umtiti qui des 6 premiers mois à Barcelone où il était vraiment très fort. Sincèrement, enfin, je veux dire, c'est un joueur qui physiquement me paraît pas dans une forme extraordinaire, qui a des erreurs. Bah, rappelez-vous de Nabil Fekir la semaine dernière, le vent qui lui a mis sur le but que l'ancien Lyonnais a marqué avec le.
Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Qu'est-ce qui s'est passé?
Ben c'est la blessure, non, qu'il a eu.
Ouais, et puis
il y a la Coupe du Monde aussi, je sais pas.
L'anglais qui a pris sa place.
Bah, rappelez-vous, la Coupe du Monde, il s'entraînait quasiment pas parce qu'il devait ménager son genou. Ouais, quand même, il avait un problème. Il y a aussi un choix médical. Le Barça voulait qu'il s'opère rapidement. Lui n'a pas voulu. Il a fait plein de traitements conservatoires. Voilà, mais je trouve, moi, j'aime beaucoup plus l'anglais, même si l'anglais n'est pas un niveau extraordinaire. Je trouve qu'il est beaucoup mieux que.
Il est plus propre.
Puis rappelez-vous que Umtiti a failli être vendu cet été. Hein.
Ouais, c'est vrai. Voilà, ça va peut-être mieux pour lui, non?
Oui, peut-être. Voilà. Mais pour revenir sur cette équipe du Barça, alors j'attends les phrases. Oui, Messi a fait une passe décisive.
Alors voilà, sublime. J'avais pensé là-dessus, on va dire qu'on fait une obsession, mais et pas spontanée.
Spontané, sublime. Bah, je pense qu'il a pas.
Griezmann.
C'est ça. Du bourre. Ouais. Je pense qu'il a pas dû voir que c'était Griezmann.
Mais c'est ça,
devant.
J'allais dire, c'est en fait. C'est tellement spontané que je pense qu'il a fait. Oh merde, c'est pour Griezmann.
C'est de l'humour, les amis. C'est de l'humour. Oui, c'est pas la peine de m'insulter.
Mais c'est pas grave si on t'insulte.
Hein.
Allez.
C'est pas vous, hein, mais sur les réseaux.
Mais je sais bien.
Mais alors, moi, je suis ravi. Moi, je suis le premier à vouloir que quelqu'un que j'aime beaucoup parce que je l'ai bien connu ici en Espagne et parce que je suis français et que je veux un grand Griezmann pour l'Euro avec l'équipe de France, je souhaite de tout mon cœur que ça marche pour Antoine. Simplement, oui, il a fait une belle passe, mais 7 mois ensemble, combien de passes décisives a donné Messi à Griezmann ?
Ça fait combien là ? 2 ?
2.
2.
C'est pas beaucoup. Hein.
Il en a mis 2 à Ansu Fati en un match il y a 15 jours.
Ouais. Et dans ce match contre Grenade, il avait fait, alors que Griezmann jouait en pointe, Messi à droite et Ansu Fati à gauche. C'est-à-dire que Griezmann et Messi sont tout à côté. Enfin, je veux dire, ça devrait être naturel. Messi avait fait 2 passes à Griezmann et il avait fait 3 passes à Ansu Fati. Bon, j'ai appris l'autre jour que l'agent d'Ansu Fati, c'est le frère de Messi. Ça peut aider aussi.
D'ailleurs, excellent papier, je le dis, nos confrères de France Foot, sur la relation Griezmann-Messi. Ouais. On apprend plein de choses et une petite phrase de Griezmann qui ne vont pas forcément arranger la relation. Pour dire également que Messi n'est pas forcément le seul responsable. Peut-être qu'il estime que Griezmann n'est pas le meilleur joueur avec qui gagner des titres. C'est ce qui ressort du papier de France Foot.
C'est une phrase de. En plus, c'est un de mes amis. Le directeur adjoint du journal Sport, journal de sport.
Qui dit ça, ouais.
Luis Mascaro, qui dit, mais de toute façon, il y a deux choses. La première, c'est que c'est une erreur de casting de la part du Barça.
C'est ça.
Et il remonte ça en disant, mais ils ont acheté Coutinho. C'est un joueur de la zone Messi. Ils ont acheté Dembélé. Même s'il est un peu plus excentré, c'est quand même quelqu'un qui, quand il repique, il est un peu dans la zone Messi. Puis surtout Griezmann, c'est un joueur dont t'as pas besoin le Barça, puisque dans cette zone-là, il entre dans l'espace
Schengen. Exactement. Ils ont les mêmes déplacements.
Exactement, donc c'est pas compatible. Et donc, pourquoi Messi? C'est pas uniquement parce qu'il est copain avec Neymar qu'il voulait qu'il revienne. C'est parce que Messi, de sa
crise complémentaire
de Neymar, est vraiment complémentaire et peut rapidement entrer au service de Messi. Donc voilà, la relation, elle est pas naturelle entre Griezmann et Messi.
Et Fred,
et moi, si les gens sont contents simplement parce qu'ils ont vu une passe décisive, aussi belle soit-elle, il faut prendre sur l'ensemble de cette relation. En plus, Griezmann, il vit en Espagne depuis longtemps. Il était formé en Espagne, donc il découvre pas une langue, il découvre pas un championnat. Mais voilà, moi, quand j'aurais pas vu, quand dans un match je verrais Griezmann recevoir 2 ou 3 ballons de Messi et qu'un gamin de 16 ans reçoit 11, bon ben voilà, tant qu'il y aura pas cet équilibre là, voilà. Et je trouve que Messi, je sais pas si vous avez vu ces images aussi de un moment. C'était le dernier match. Enfin, c'était le match contre Grenade. On voit, il y a De Jong qui marque. Tu as Messi qui court pour embrasser De Jong. Griezmann s'approche pour l'embrasser. Il l'embrasse rapidement, puis tout de suite il va se jeter dans les bras de De Jong. C'est-à-dire que même là, les Espagnols ont fait leur chou gras à la télé. C'est une réalité qu'il n'y a pas un feeling.
Voilà. Après, on les a vus quand même dans les bras l'un de l'autre régulièrement saison. Tu vois, alors c'est peut-être fin ou alors.
Non, mais vous savez ce qui se passe aussi. C'est que vous les avez vu ces images, c'est le FC Barcelone qui est très fort sur les réseaux sociaux et c'est pour moi c'est aussi significatif. C'est-à-dire que les comptes Twitter, Instagram du Barça inondent de photos où on voit Messi et Griezmann ensemble. Voilà, ça veut dire quelque chose. Bon après est-ce que disait Luis Mascaro le grand journaliste de sport aussi dans le dossier des copains de France Foot, c'est que aussi Messi considère que Griezmann manque trop de buts et que il voit en
c'est le cas cet après-midi aussi. Hein. Il a une belle occasion d'un doublé. Il a tiré au-dessus.
Même un triplé, hein, parce qu'il a 2 belles occasions. Il est sur son pied droit. D'ailleurs, il en rigole un petit peu après. Mais je peux vous dire qu'on en aurait beaucoup parlé si Retafe, comme ça semblait pouvoir se dessiner, avait égalisé à 2 partout. Donc voilà, c'est une année très difficile pour Griezmann. Donc dire que c'est la relation absolue et que tout va bien. Non, et je pense que au-delà d'un feeling personnel qu'il peut y avoir ou pas avoir. C'est qu'il y a vraiment cette question de que Griezmann est peut-être une erreur de casting pour le Barça parce qu'il arrive dans un espace qui est déjà occupé par le meilleur du monde.
Et la question, on verra, c'est l'obsession de Griezmann à vouloir s'imposer sur la durée ou pas, justement à partir peut-être dès l'été prochain ou dans un an et demi. Le Real Madrid, Fred. Real Celta Vigo. Demain, le Real pour récupérer sa première place avec un événement. Retour d'Eden Hazard dans le groupe.
Oui.
13 matchs seulement cette saison TCC pour lui.
Oui, et merci Meunier, 26 novembre dernier, cette faute, ce tacle inutile dans un match qui n'avait plus d'enjeu comptable, puisque les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. C'était assez sérieux ce qu'il a eu quand même. Il y avait un petit truc osseux quand même, quoi. Donc il y avait une petite fissure. Donc, mais Zizou n'a surtout pas voulu prendre de risque avec Hazard, pour une raison très simple. C'est que même sans Hazard, ça marchait bien le Real. Voilà, donc je dis pas que le Real n'a pas besoin de Hazard, loin de ça. Mais c'est qu'il n'y avait pas d'urgence à le faire revenir le plus tôt possible, quitte à prendre un petit risque, parce que le Real marche bien sans Hazard. Donc là, il y a un plus qui arrive.
Fred, juste, je te coupe 2 secondes, mais tu parlais d'erreur de casting pour Griezmann.
Est-ce que, en étant un peu provocateur, est-ce que Hazard, ce serait pas aussi une petite erreur de casting, en tout cas
non.
pour l'instant?
Non, parce qu'il a sa place. Voilà, ouais, parce
mais...
que
ouais, Zidane, mais tu sais, Zidane aime bien quand même les joueurs qui défendent.
C'est un joueur extraordinaire.
Ouais, mais il joue qu'avec le ballon, Hazard.
Oui, mais sincèrement, j'en ai discuté par exemple en off avec Karim Benzema, qui dit mais Eden, il apporte la clarté.
Ok.
Tu vois, donc Zidane a compensé l'absence de Hazard avec quoi ? En mettant Vinicius, en mettant Lucas Vazquez avec Karim, en mettant Bale parfois, en mettant Rodrigo. C'est-à-dire que, vous regardez, il n'y a jamais le même 11. En général, il fait entre 5 et 8 changements entre deux matchs.
Mais est-ce que cette équipe n'est pas plus équilibrée ? Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'avec Hazard, quand tu n'as pas le ballon, tu joues à 10, hein. Ça c'est
oui,
clair.
Oui, mais maintenant, justement, c'est une question intéressante, mais ils ont vécu ça du temps de Cristiano Ronaldo, tu sais, ça a bien marché.
Oui, oui.
Et surtout, là, maintenant, il y a Casemiro et Valverde au milieu de terrain. Donc, et en plus, ce qui va se passer de plus en plus souvent, c'est que le 4-3-3 habituel de la grande période avec les trois Ligues des Champions de suite, déjà Zidane, il aimait bien jouer en 4-4-2 quand il pouvait, mais là, très souvent, ça va être... Et comme Bale n'a plus forcément sa place dans cette équipe, ça va être très souvent un 4-4-2. Okay. C'est-à-dire avec en losange, avec Kroos, parfois avec Modric ou parfois avec Isco. Donc il y a pas d'alternative. Mais devant, Hazard et Benzema semblent intouchables. Okay. Mais sincèrement, Hazard, qu'est-ce qu'il va apporter ? Il va apporter... Tu sais, quand t'as les petits jeunes comme Rodrigo, comme Vinicius, qui sont parfois un petit peu nerveux dans la surface, entre Benzema et Hazard, mais ça va jouer tout seul, quoi. Donc
oui,
c'est
vrai aussi.
C'est, tu vois, c'est dans au sein du staff technique du Real.
Intéressant,
on dit, c'est notre recrutement du mois de janvier.
Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, Fred, et surtout c'est une des qualités principales de Zidane, c'est que je pense qu'il aura aucun mal à l'intégrer parce qu'il est pas du tout dogmatique dans ses mises en place, quoi.
Ah non, mais pas du tout. De toute façon, non seulement. Il y a un jeu ici entre collègues en Espagne, c'est qui va jouer et dans quel système il va jouer. C'est-à-dire que c'est l'inconnu total jusqu'à une heure avant le match quand on voit quand arrive le 11. Mais c'est ça la force aussi du Real Madrid, et c'est la raison pourquoi je pense que le Real Madrid a beaucoup plus de chances de remporter la Liga, parce que le Real a 23-24 joueurs compétitifs.
Oui, il y a une profondeur.
Le Barça en a 15. C'est pour ça qu'ils vont devoir recruter un joker
médical, homogène.
Bah, ils ont dû vendre beaucoup de joueurs pour des raisons d'argent.
Reste avec nous.
Oui.
J'accueille Julien Laurence avec toi, avec nous.
Ah,
bonsoir Julien.
Salut à tous.
T'as vu l'émotion?
Comment ça
là
va?
C'est presque un orgasme là. Fred.
C'est beau. C'est beau, hein. Je suis double champion d'Europe, donc c'est normal.
Ouais, enfin, mais l'année prochaine, c'est qui? C'est Southampton qui va prendre la place de City en Ligue des Champions? Qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai fait l'United. Oh, c'est bien. Oh,
les gars, au shoot, on vous chauffe tous les deux rapidement avant de libérer Fred. Vous vous affrontez mardi soir, les gars, là.
Ah oui, avec les Clético.
Bien sûr.
Les amis, on va savoir si les Anglais étaient un feu de paille ou si l'Espagne reprend.
J'ai bien peur que Liverpool roule sur la
Clético. Je suis pas sûr que Liverpool, Julien, ait peur de la Clético de Madrid. Vas-y.
Je suis pas sûr. Non, mais là-dessus, par rapport à Julien, je te passe la balle. Mais je suis pas sûr que Klopp était très content non plus de tomber contre l'Atlético.
Évidemment. Personne n'est content de tomber contre l'Atlético.
Vas-y, Julien.
Non, mais c'est pas non plus l'Atlético d'il y a 3 ans.
Non, Liverpool est archi favori. Simplement, ils ont fait un bon match hier encore à Valence, 2-2, en étant beaucoup plus volontaire. Non, Liverpool va se qualifier, mais je pense que ça sera pas réglé au match aller mardi soir au Wanda à Madrid.
Julien, tu restes avec nous. Moi, je remercie Fred Hermel. Bonsoir.
Merci, Fredo.
Bonne nuit, les amis. À bientôt.
Tu viens pas à Paris?
Si, je serai là. Je serai à l'Atlético mardi et mercredi, je serai à Paris.
Allez, à très vite.
Bonne
Fred,
nuit.
Excellente soirée.
Salut,
bonne nuit à toi.
Ciao, ciao.
Julien, tu restes avec nous. On marque une pause. On revient dans un instant avec Julien pour évoquer l'action en Angleterre à Liverpool. Bon, je sais même plus quoi dire. Il y a plus de superlatif. On va se projeter sur la Ligue des Champions pour Liverpool, hein. Bien sûr, ça devient presque la priorité pour les Reds maintenant que le championnat est plié. Julien est avec nous. Simonet sera avec nous également pour parler de l'Atalanta, qui joue en Ligue des Champions également, un huitième de finale très bientôt. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot. Nicolas Jamain.
Avec Jonathan Macardy, avec Kevin Diaz, on est ensemble jusqu'à minuit et nous allons réaccueillir Julien Laurence avant d'accueillir Simone Rovera. Salut Julien.
Rebonsoir.
Salut Julien. Je sais pas comment préparer les pages foot anglais, surtout quand Liverpool joue le samedi. Je sais pas écrire, je sais pas quoi faire. Liverpool a gagné face à Norwich. 17e succès consécutif. 76 points sur 78 possibles. 58 points d'écart avec l'adversaire du jour. Le 20e Norwich, ouais. 58 points. Et 25 points d'avance sur City. On parlera de City dans un instant. Que dire avant, surtout, hein, maintenant l'intérêt c'est de se projeter sur la Ligue des Champions, avant ce match face à l'Atlético de Madrid mardi.
Alors la bonne nouvelle, c'est que Sadio Mané est revenu de blessure et est plutôt bien revenu même, puisqu'il était, même s'il était remplaçant au coup d'envoi, il est entré en jeu, il a marqué un superbe but d'ailleurs avec un contrôle assez extraordinaire.
Ah oui.
Aérien, pied droit et une demi-volée pied gauche dans la foulée, assez exceptionnel. Liverpool qui est un petit peu comme souvent cette saison, hein, souvent dans le samedi soir avec toi, on en parle, où ils sont pas très bons, ils sont moyens, mais ils ont cette force mentale et cette des confiance tueurs en eux qui fait qu'ils savent qu'à un moment ils vont gagner, ils vont avoir une occasion, ils vont la mettre au fond. Et c'était un peu comme ça aujourd'hui où, non, Norwich a bien joué aujourd'hui, mais encore, effectivement, t'as raison, encore une clean sheet pour Liverpool. Et puis surtout, cette foi inébranlable en eux-mêmes, qui vont à un moment avoir une occasion et qui vont la transformer. Et ça a été le cas aujourd'hui en fin de match. Et voilà, c'est ce que Liverpool nous a habitué cette saison. Ils sont capables d'élever leur niveau de jeu, ils l'ont fait aussi. Mais quand ils sont pas forcément dans un très très bon jour, c'est pas grave, ils arrivent quand même à gagner.
La question, on en parlait tout à l'heure, hein, notamment pendant le RMC Football Show, quand on parlait du PSG qui a fait tourner avec 6 remplaçants titulaires aujourd'hui face à Amiens. Liverpool, c'est pas la même question qu'on se pose. On met l'équipe à 4 jours d'un match de Ligue des Champions. Pourquoi, Julien? C'est une tradition, c'est comme ça, c'est Klopp.
Non, alors n'oublie pas non plus que nous on a eu la mini trêve hivernale en fait, donc oui. Liverpool n'avait pas joué non plus le week-end dernier, donc c'était aussi important, je pense, pour les titulaires habituels de reprendre un petit peu de temps de jeu. C'est pas comme s'ils avaient joué il y a 3 jours non plus. Là, je pense qu'il aurait fait, s'il avait eu un match à 3 jours et un autre match dans 3 jours, il aurait peut-être plus fait tourner. Là, il n'y avait pas vraiment besoin de faire tourner. Il a fait entrer en jeu les joueurs dont il voulait faire entrer en jeu, comme Fabinho par exemple à l'heure de jeu pour faire reposer un peu Wijnaldum, comme Sadio Mané, on en a parlé aussi tout à l'heure, qui lui aussi est entré à l'heure de jeu à la place d'Oxlade Chamberlain. Donc ça a très très bien fonctionné pour Klopp. Il n'a pas eu besoin de faire des changements plus tôt puisqu'il contrôlait plutôt bien la rencontre. Donc c'était un samedi plutôt sympa pour Liverpool et pour Jurgen Klopp avant le match de l'Atlético mardi soir.
Voilà pour Liverpool mardi soir. L'autre dossier, c'est City. Évidemment, t'as pas eu hier. On en a parlé, nous. On a essayé de décrypter, notamment le cas City. Je rappelle, exclu toute compétition européenne pendant 2 saisons, 2021-2022, 2022-2023. Déjà, comment on voit ça? Comment on réagit en Angleterre?
Ah, c'était une bombe atomique. C'était la bombe atomique hier. D'ailleurs, aujourd'hui, Liverpool, on en parle nous dans l'émission, mais personne n'en parle ici ou quasiment pas. Un, parce que le championnat est déjà plié, mais surtout deux, parce qu'on continue encore de parler de Manchester City et que va faire Pep Guardiola et que va faire Kevin De Bruyne. Et quand est-ce qu'on saura, ils vont faire appel de toute façon devant le TAS, ça c'est sûr. On devrait être fixé, je pense, au mois de juin, peut-être juillet, mais d'ici là, les rumeurs vont continuer. Aujourd'hui, par exemple, en Angleterre, ce soir, on dit que Brendan Rodgers et Pochettino seraient les favoris en cas de départ de Pep Guardiola. On se demande aussi où certains joueurs pourraient aller et si City va devoir vendre, parce que le manque à gagner va être assez incroyable, pas simplement sur les recettes télé et les recettes sportives de la Ligue des Champions. La saison dernière, je crois, ils ont gagné 93 millions d'euros, Manchester City, donc c'est déjà une énorme perte. Mais si en plus tu considères l'absence de revenus sur les places vendues dans les matchs de Ligue des Champions, parce qu'il y aura plus de matchs de Ligue des Champions, plus de matchs européens, ce que tu pourrais perdre en termes de sponsors aussi, des sponsors qui, par exemple, il y a beaucoup de contrats sponsors où t'as des clauses à l'intérieur, s'il n'y a pas de qualification en Ligue des Champions, et ben tu perds de l'argent par rapport à ces contrats de sponsoring. Donc ce serait un manque à gagner assez incroyable pour un club comme City, qui ensuite devrait forcément dans ses comptes.
Mais est-ce que ce ne serait pas la fin d'une époque, d'un cycle? Est-ce que, en allant plus loin encore, ça ne pourrait pas signer le départ, eh bien, des dirigeants émiratis?
Peut-être, si, peut-être. Le problème qu'on a ici en Angleterre, c'est qu'on ne sait pas exactement encore la part de responsabilité d'Abu Dhabi, des propriétaires. Parce qu'aujourd'hui, et c'est là où les Anglais ont énormément de mal avec ce scandale, c'est que Manchester City a triché. C'est pas comme le PSG, par exemple, ou l'AC Milan. C'est une vraie triche. Ça veut dire qu'à un moment, quand on a fait les comptes, quelqu'un, volontairement, a inscrit les mauvaises sommes.
C'est ça.
C'est un ensemble, un club. Alors peu importe combien de personnes étaient au courant, une personne, 10 personnes, 20 personnes, 100 personnes, 500 personnes, on ne sait pas encore. Mais ces gens-là ont foncièrement triché. Ils ont exprès trafiqué les comptes.
Julien,
et ça, ici en Angleterre, ça a vraiment du mal à passer.
Ouais, Julien, même si on ne sait pas encore ce qui s'est passé, même si on n'est pas encore complètement sûr que avec cet appel, ce ne sera pas annulé, mais quand même. Moi, je pense
mal embarqué là, parce que le tribunal arbitral du sport là-dessus, quand il y a triche avérée, ça va être compliqué.
Cette histoire, elle marque quand même un point d'arrêt et les limites de ce football moderne, ou en tout cas de cette structure de club où voilà, un État rachète un club pour se faire de la pub, pour plein de choses qui sont plus politiques que sportives, etc.
Sûr.
Et aujourd'hui, tu vois quand même les limites de ce système-là, parce que Manchester City, qui était un club, sans leur faire offense, un club moyen
anglais avant
club
l'arrivée.
Historique, mais moyen.
Oui, un club, mais bon, un club qui était comme Everton, le deuxième grand club.
Le club des prolétaires.
Voilà. Après, avec l'arrivée de cette famille, ok, ça a redoré ce blason, ça a fait plein de choses, mais au final, le football, alors c'est pas qu'on, je pense quand même que le fair play financier, ça a du bon, parce que même si des fois il y a quelques dérives, mais il y a quand même du bon, parce que certes, ça avantage les grands clubs, on va dire les historiques, le Bayern, le Milan, et encore bon le Milan, ça les a pas forcément avantagés toujours, mais
tu vois ce que je veux dire. Eux aussi, hein.
Il y a que ça ramène quand même les choses à des valeurs qui sont un peu plus cohérentes avec le football qu'on aime, ou en tout cas celui qu'on a aimé.
Ça reconnecte l'économie du football à l'économie réelle.
Vas-y Julien, conclue.
T'as tout à fait raison, Kevin, mais ils étaient pas obligés de faire ça. Même avec tout l'argent du monde qu'ils ont, ils étaient pas obligés de tricher non plus. Ils auraient pu prendre leur temps un peu, ça aurait mis un petit peu plus de temps, mais à un moment, personne les a forcés à tricher. Et à trafiquer les comptes. Et juste pour finir, là où ça pourrait être encore plus grave pour eux, c'est que la Première Ligue maintenant, aussi vont commencer à regarder les comptes que Manchester City pendant ces années de 2012 à 2016 ont transmis à la Première Ligue. Et peut-être que le titre de 2014, celui qu'ils remportent devant Liverpool, peut-être que celui-là, à un moment, ça pourrait être limite pour eux. Et c'est là le problème, c'est qu'à mon avis, on n'a pas terminé avec ce scandale.
Ouais, effectivement.
Ça paraît incroyable quand même.
Merci Julien.
Salut Julien.
Salut
merci
Julien.
Les gars,
excellent
bonne fin
d'émission. Très vite, bien sûr, la semaine de Ligue des Champions à venir. Simone Reverra est avec nous. Ciao Simone.
Ciao, buonasera, bonsoir.
Dans une magnifique ville italienne. Salut, il est à Bergame, Simone. Ah oui, bonsoir, Simone.
Écoute, je suis dans la chaise 10, du rang 10 du stade de l'Atalanta, dans la tribune centrale, où j'ai vu un magnifique spectacle pour
T'as vu la victoire de l'Atalanta Bergame, 2-1, face à la Roma. L'Atalanta 4e, qui va sûrement conserver sa 4e
avec
place.
Avec 6 points d'avance sur la
c'est
Roma.
C'est hyper important.
Et deux confrontations directes. Donc, on peut dire virtuellement 7 points d'avance sur la Roma dans la route pour la Ligue des Champions. Pour moi, ce soir, j'ai vu l'équipe qui jouera la prochaine Ligue des Champions parce qu'il n'y a pas photo en ce moment entre les deux équipes.
Et puis l'Atalanta qui jouera également en Ligue des Champions la 8e de finale face à Valence.
Oui, équipe quand même plutôt titulaire qui utilisait Gasperini. Comme j'ai dit, c'était presque une demi-finale pour la Ligue des Champions, ces matchs face à la Roma. Ils ont doublé leur avantage. Mais surtout, Gasperini quand même a plusieurs changements à faire, peut-être en Ligue des Champions. On verra, on a vu un Zapata qui n'était pas très en jambes ce soir. Muriel qui est rentré bien sur la fin. Pasalic qui rentre, marque son 5e but de la saison après 14 secondes depuis son entrée en jeu. C'est une Atalanta qui, j'ai dit souvent, a plein de ressources, même sur les banques de touche. La ressource principale, c'est les banques de touche, c'est Gianpiero Gasperini, qui à la fin du match a été ovationné par les publics plus que n'importe quel autre joueur. C'est vraiment une fusion totale entre cette ville et l'homme de banque de touche. Et si mercredi soir à San Siro, on verra la même Atalanta avec une petite erreur à moins en défense, parce que la Rome a fait une tir cadrée sur un passe en retraite raté d'un joueur de l'Atalanta et un mauvais contrôle de son coéquipier Balomino. Sans erreur, cet Atalanta, pour moi, c'est injouable.
Injouable. On verra, hein, mais une vraie
pour une équipe qu'on balance. Ouais, hein, pour l'équipe qu'on balance. Après, si
il y a Liverpool. T'as totalement raison.
Merci.
Ouais, non, mais quand il y a rien à dire, t'as raison. Ils sont extraordinaires.
Mais c'est quoi ce. Attends, Gasperini, on le connaît, hein, il est arrivé au club en 2016, tout ça, il n'avait pas une grande expérience avant d'arriver à l'Atalanta.
Il a entraîné l'Inter.
Bah écoute, je me souviens qu'en 2009-2010, Gasperini, il était l'entraîneur du Genoa qui arrive 4e à égalité des points avec la Fiorentina et il rate la qualification en Ligue des Champions pour la confrontation directe.
Bah oui, mais c'était compliqué après Mourinho et tout.
Ouais, mais l'Inter, il arrive au mauvais moment dans un club qui était plus grand que lui, trop plus grand que lui, en fin cycle, et lui arrivait avec l'idée de tout changer. Et n'a pas eu le temps de mettre en place ça et peut-être n'a pas eu le bon discours avec un certain vestiaire. C'est pas la même chose de parler en vestiaire des stars que parler en vestiaire comme celui de l'Atalanta.
Je rappelle que Kevin pense que l'Atalanta sera l'Ajax de la saison 2020-2019.
Je leur souhaite en tout cas. Ce serait beau, ce serait la victoire du jeu.
Bon, déjà, t'as une vraie chance de passer en quart de finale, après tout est possible. Hein. Ce serait super intéressant parce que c'est un jeu résolument offensif aussi, Simone.
C'est
hein.
Régalade à voir.
Beaucoup, parce que on en parle parce que beaucoup vont découvrir l'Atalanta les prochaines semaines en Ligue des Champions. Hein. On est sur un jeu très porté vers l'avant, chatoyant.
Il y a des joueurs dingues. Le petit Papou Gomez, là, c'est vraiment un putain de joueur.
Juste, Simone, pour aller dans le sens de Nico, j'ai vu passer sur Twitter que l'Atalanta cette saison a gagné 45 points après avoir été mené au score.
C'est énorme.
Pour dire que.
Alors, 45, ça me semble beaucoup. J'ai l'impression qu'il a gagné les 45%.
Ah oui, c'est plus de ça.
Peut-être 45%.
J'ai l'impression que c'est ça. C'est énorme, mais c'est quand même énorme. C'est-à-dire que l'Atalanta, même la semaine dernière à Florence, est menée, mais après n'échange rien. C'est pas qu'ils sont prendre par l'impatience de chercher le but. Ils concèdent des occasions parce que quand tu as un jeu toujours direct vers l'avant, tu peux laisser des espaces, tu peux faire des erreurs même en cherchant une passe verticale. Tu peux te tromper, mais tu te rates une fois et sur un match, tu fais 10 fois des bons passes verticales, 15 fois, 50 fois, tu arrives dans la surface avec un milieu, avec un défenseur, avec un avant-centre, avec Papu Gomez qui c'est un homme à tout terrain. Okay. Et quand tu arrives plein de fois dans la surface, tu arrives à marquer.
Je connais. Merci Simonet, excellent soir. Merci Jonathan, merci Kevin.
Ciao.
À très vite dans la Bergam Valence, ce sera mercredi soir. Bonne soirée à tous.
Bonne soirée, les
à
amis.
Très vite. Salut.
RMC. L'After Foot.